Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur l'onde de fronde.
Vous êtes sur FPP 106.3, vous écoutez Langue de Fronde. Alors oui, on a raté l'émission d'août, voilà. Parce qu'on était sur la colline de Zinzine, en train de faire du vélo, en train de manger des sardines à Douarnenez, ou en Ariège, à chanter la rue des Lilas. On a fui, loin des JO, tenté encore une fois de détruire le capitalisme, et on s'est même essayé à divers sabotages dont personne ne s'est vraiment rendu compte. Heureusement, le 9 juin, avant la vague brune, on avait bossé et promené nos micros au festival Aphrodite Mon Cul, qui avait lieu au Sample à Bagnolet. C'est donc tout ça que vous allez entendre. Maintenant, c'est septembre. Bonne écoute. I'm only one step ahead of heartbreak, one step ahead of misery, one step is all I have to take, backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips. Your warm breath on my shoulder keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too late to be free. Can't you see? I'm only one step ahead of your. Seems like I'll have to take that one step backwards, 'cause one step ahead is a step too far away from you.
Août 2024. Voyage dans le sud-est de la France.
Montagnac, Montpezat. Bon, il y a plein de voitures, mais moi je suis montée à vélo et il fait chaud. Je sue beaucoup. Mais je suis contente d'être arrivée en haut, mais c'est pas fini. en plein dans les gorges du Verdon, en direction le lac Sainte-Croix.
Ça monte. Changement de vitesse. Et ça descend.
Les grosses rafales là sur la fin, ça... Ça met par terre, mais suffit de regarder autour, là, c'est magnifique.
Ouais, hein. Ouais. En tout, c'est pas les Alpes, hein.
Eh non, c'est différent. C'est là, par saut, c'est assez... C'est très constant au début, avec des petites pentes. Du coup, ça roule bien. Et puis, changement de rythme au chalet Reinhardt. Et puis, les deux derniers kilomètres, là, avec le vent, c'est encore une autre ascension. On a fait trois ascensions en une.
Moi, je ne l'ai pas monté. Trop dur. Je suis passée par les gorges de la Neck. Trop beau. Et vers Fort-Calquier, après Longomaille, sur la route est écrit Radio Zinzine.
Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans les infos du dimanche soir. Premier rendez-vous pour fêter les 40 ans de Radio Zinzine, qui a démarré en 1981, comme d'ailleurs la plupart des radios.
Et à 800 mètres d'altitude, au milieu de la forêt, dans une ancienne maison de berger, eh ben, il y a le studio de Radio Zinzine.
Bonjour, bonsoir. Quelques infos depuis la colline Zinzine.
Radio Zinzine, c'est une radio libre et associative, issue de la coopérative autogérée Longomaille. Elle diffuse ses programmes en Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. C'est une radio engagée politiquement qui propose des regards, des analyses, des informations sur l'actualité que nous n'avons pas l'habitude d'entendre dans les médias plus généraux. C'était trop chouette de découvrir ce studio perché.
En tout cas, on maintiendra au moins la table ronde qu'on a prévue sur nos ondes, puisque ça se fait dans la radio, et là, vous pouvez quand même venir un peu dans la radio au moment où on fait cette table ronde sur les radios libres, l'histoire des radios libres, avec l'histoire de Radio Zinzine, bien sûr, et avec quelques témoins acteurs de l'époque, donc des vieux radioteurs ou vieilles, mais c'est vrai qu'il y avait surtout des mecs, hein, ce qui est quand même curieux, puisque la radio, on voit pas pourquoi ça serait genré. Donc, c'est sans doute lié à... Ça fera partie des questions d'ailleurs liées à l'évolution, même si c'était vraiment un moment d'explosion de liberté des ondes.
Vive les radios libres et associatives!
C'est pas le moment de dormir, grand chêne.
Est-ce que je peux citer des renards ici?
Août 2024, Hélène, Lison, Clémence, Juliette et Mirko, quelque part en Ariège, dans une cabane perdue. Le lieu idéal pour chanter des chansons, les chanter fort, 100 fois par jour, et dans des versions parfois un peu approximatives.
Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville et je m'éteins dans la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Moi, je m'éteins dans la rue des Lilas. Plus jamais revoir la dune au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus les cimes et la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui efface mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Revoir
mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis. Danser le dapké pour repousser la mort, trinquer la rac jusqu'au bout de la nuit. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, moi je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas. Au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas. Au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis,
je vous le dis,
je vous le dis,
je vous le dis,
je vous le dis, que maudite soit la guerre.
Non, on l'a fait.
Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con, parce que j'ai raté ma vie, j'ai raté mon évolution spirituelle. De l'amour.
Coucou, vous êtes bien sur 106.3 FM sur l'émission Langue de Fronde, une émission féministe. Moi, c'est Astrid. Et maintenant, dans cette partie d'émission, on va vous attirer dans un événement, le festival Aphrodite mon cul, un festival queer féministe autour des questions du corps, des sexualités, de la gynécologie, auquel on a pu se rendre avec une partie de la team du collectif Langue de Fronde le 9 juin dernier. Ce qui va suivre, c'est trois prises de son différentes. La première, c'est un entretien que j'ai pu mener quelques jours après le festival avec Estelle qui a organisé l'événement. Donc il y a une partie de l'entretien qui est autour de justement expliquer un peu l'événement et ensuite sur son activité professionnelle du moment qui, vous allez voir, orbite autour de la question de la gynécologie. Ensuite, vous allez entendre Claire nous parler de son spectacle préliminaire Pénétration Orgasme, qui est un spectacle humoristique autour de la sexualité hétéronormée en particulier. Et puis, la troisième prise de son, un peu plus longue, qui, elle, se concentre autour du court-métrage Histoire d'entrejambe par Mylène Guillard-Schmidt. On a fait un petit montage à partir de passages du court-métrage, des questions-réponses qui ont pu suivre la projection du court-métrage au festival et d'un petit entretien qu'on a mené, nous, de notre côté, avec Mylène Guillard-Schmidt, sa réalisatrice. Voilà, donc on vous laisse avec tout ça. Et bien évidemment, on vous laissera les infos concernant ce festival sur le site Rise Up du collectif.
On est bien sur l'onde de fronde.
Du coup, c'est Estelle. Donc, je suis accompagnante en gynécologie émotionnelle. Donc, j'accompagne des personnes qui ont des troubles gynécologiques ou pas forcément, ou alors des personnes qui veulent juste se connecter à leur sphère gynéco. Et j'accompagne les personnes vraiment en dehors du spectre du genre. Enfin, n'importe quelle personne, quelle que soit l'identité de genre exprimée, peut venir faire appel à moi. Du coup, j'ai organisé le festival Aphrodite mon cul, donc le 9 juin, au Sample. Donc c'est un festival queer féministe sur les savoirs gynécologiques, le corps et la sexualité.
Là, on va enlever toutes les chaises et les bancs. Et après, ça va s'enchaîner. Il y aura deux performances et deux concerts qui seront à l'intérieur. Voilà, ça va être bon.
Ce qui me tenait à cœur, c'était le fait que ce soit queer et féministe. Il peut y avoir des festivals de gynéco, mais qui sont un peu essentialisants sur la femme, etc. Et j'avais pas du tout envie que ce soit ça, et j'avais envie que ce soit quelque chose où chaque personne, peu importe l'identité de genre, puisse venir et connaisse mieux leur corps. J'ai l'impression que aussi dans plein de milieux militants, le corps, on l'a mis à côté parce que ça, c'est hyper essentialisé, quoi, et essentialisant de penser par ça. Et du coup, j'avais vraiment envie de donner une autre manière de voir le corps. En fait, on peut comprendre comment notre corps il fonctionne. Et en fait, c'est hyper féministe et hyper empouvoirant. Quand il y a eu les mouvements de self-help aux États-Unis, c'était quelque chose qui était fait par des femmes pour des femmes. Et maintenant, l'autogynéco, genre en France, il reste encore un peu cette fraction en fait écoféministe, genre un peu essentialisant. Et j'ai envie que du coup les mouvements queer s'emparent aussi de cette question de l'autogynéco et de la gynéco, quoi, en général. On va genre s'enrichir ensemble, quoi. Et ça, c'est hyper poétique aussi de se dire il n'y a pas de soigné dans un point de vue vertical de domination.
10 euros, c'est beaucoup et j'en ai conscience, mais il y a eu plein de choses et plein de programmations trop chouettes et des artistes qui ont joué une heure et demie et des trucs trop chouettes. Donc si jamais vous souhaitez repartir en lâchant des petits billets comme ça,
Et en termes de programmation, j'ai envie que les gens ils ressortent de ce festival avec des informations concrètes sur leur corps. Genre, en fait, aujourd'hui, j'ai appris des choses. Et ça, c'était hyper important. Et j'avais envie qu'il y ait aussi une programmation festive. Et c'est pour ça que le soir, il y a des concerts, etc. Il y avait une table ronde sur donc, comment être acteur de santé gynécologique, donc avec un point de vue vraiment sur les violences qu'il peut y avoir dans le milieu médical, le consentement, les biais racistes, donc avec une doula queer, Eva Luna, une personne qui travaille sur la justice reproductive, une gynécologue et une personne qui travaille sur l'allaitement accompagnante en périnatalité. Et voilà, après il y a eu une projection, donc ça a été sur la projection de Mylène sur les histoires entre jambes, donc là qui propose d'autres récits sur l'accouchement. En même temps, il y avait du coup la conférence gesticulée de Maude Renard qui s'appelait le gyné chaud, donc là qui expliquait en fait l'anatomie gynécologique, donc en faisant des mouvements, etc. Voilà, et en reliant ça à la maison utérine, genre comment se sentir chez soi, comment être relié à sa sphère gynéco. Après, il y avait une autre conférence du coup par Clé, un doula à Bruxelles, voilà, qui travaille sur ça aussi, sur la syndothermie. Donc après, il y a eu Claire, le spectacle préliminaire pénétration orgasme de la centrifugeuse compagnie. Donc, ça paraît pour repenser la sexualité. C'est une personne qui raconte sa vie sexuelle depuis ses 15 ans. Il y a quelque chose de très pédagogique, on va dire, sur la sexualité, hyper drôle. Et là, quand j'ai vu ce spectacle, je me suis dit, oh là là, c'est incroyable, il faut vraiment qu'elle vienne jouer. Et après, du coup, c'est parti sur les performances. Il y a une performance de Lazuli qui s'appelait Cher, 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 sur le rapport au vivant. Après, il y a une super amie qui est venue faire un spectacle de striptease somatique qui s'appelait Eco-strip Performance pour Regard. Je trouve que le rapport au regard est hyper important aussi. C'est qu'en fait, on peut se détacher des normes sociales juste en aimant se faire regarder. Qu'est-ce que le regard? Enfin, je trouve ça hyper intéressant aussi pour repenser son corps d'une autre manière, en fait. Voilà, et après, il y avait deux concerts de Cisald et Cheveux Blaster, aussi avec des textes engagés sur le genre qui déconstruisent un peu tout ça. Voilà. La gynécologie émotionnelle il y a 6 mois à peu près. Du coup, le lien avec d'ailleurs l'Aphrodite Moncus, c'est que j'ai mon cabinet de gynéco émotionnel au sample. Voilà. Et c'est pour ça que je suis investie un peu dans le sample. Et du coup, j'étais en lien avec les personnes de la programmation, etc. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la gynécologie émotionnelle quand j'avais besoin d'une contraception et que j'avais regardé la symptothermie. Et du coup, j'ai acheté plein de bouquins et je me suis auto-formée à la symptothermie. Et du coup, j'ai commencé à faire ça pendant 2 ans. Et en fait, ça m'a. Ouais, j'avais envie de transmettre ça à tout le monde. J'étais en mode, mais en fait, faut qu'on sache comment fonctionne notre corps, quelles sont les hormones qui sont mises en jeu, à quoi c'est dû son prix menstruel. Enfin, j'avais vraiment une soif de connaissance liée à ça. Et du coup, j'avais regardé sur internet des personnes, des formations, des choses comme ça. Et je suis tombée sur le site de Maude Renard, qui travaille du coup sur la gynécologie émotionnelle. Donc, ça s'appelle la gynémotion, la méthode qu'elle a créée. Et après, j'ai fait une formation du coup d'un an. Et moi, j'accompagne vraiment les personnes par le prisme des émotions. Je fais aucun diagnostic. D'ailleurs, je conseille les personnes d'aller faire un diagnostic. Enfin, il n'y a pas d'examen gynéco en soi. Le but, c'est de faire avec les médecins et pas sans les médecins. Mais du coup, j'explique les maladies, parce que dans le système médical, il y a plein de personnes qui viennent me voir en mode « Ah, j'ai un papillomavirus, mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que c'est. » On prend soin de décortiquer, de prendre soin des émotions qui sont reliées à cette maladie. Enfin voilà, pas forcément suivi en fait finalement gynéco, mais vraiment suivi émotionnel, genre c'est où dans ton corps, et du coup ça permet vraiment de faire un lien entre le corps et les émotions et voir pourquoi ça vient à cet endroit du corps, pourquoi il y a une douleur qui se met là, pourquoi il y a des douleurs menstruelles, pourquoi il y a un syndrome prémenstruel douloureux, quelles émotions reviennent en permanence pour le syndrome prémenstruel. Enfin, il y a des personnes aussi qui ont des grosses phases de dépression par exemple dans le cycle, bah, du coup de se rendre compte à quel moment c'est, quelles émotions sont là, et en fait venir vraiment prendre soin de ses émotions. Enfin, pour moi, ce que ressent la personne, c'est légitime et c'est juste, quoi. Et voilà. Et du coup, moi, j'accompagne. C'est des séances de 1h30, 2h, des accompagnements assez longs. Du coup, moi, j'utilise le massage du ventre parce que je fais des massages Chinetsang. Mais aussi, je peux passer par le chant, notamment, pour l'expression, la danse. J'essaie de passer au maximum par le corps et pas que ce soit le mental qui prenne le dessus. Et ça, après en avoir parlé avec, par exemple, plusieurs psys, fait, quand tu pars du corps, quand tu pars d'un truc qui est effectif dans le corps, bah, en fait, on va directement à la thématique de la personne. Et c'est pas forcément des choses qui ont lieu dans le milieu intime. En fait, ça peut être plein de choses de la vie quotidienne où on n'arrive pas à poser des limites, par exemple. Ah, attends, je m'arrête. Mais du coup, je viens pas du tout soigner les personnes. Enfin, c'est aussi un travail qui se fait complètement à deux et qui est sur vraiment un temps long, quoi. Tout ce qui se passe dans mon corps, ça peut être quelque chose qui fait avancer la thérapie, entre guillemets. Par exemple, là j'ai la gorge qui me serre à ce moment-là. Est-ce que tu saurais pourquoi ? Et du coup, il y a aussi genre un travail qui se fait vraiment à deux. Parce que j'ai l'impression que dans le milieu médical, il y a un peu ce truc de la personne qui soigne, c'est mieux que l'autre, ce qui est bon pour toi. Et moi, c'est un peu ce que je dis aux personnes, c'est y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, entre guillemets. Enfin, par exemple, du coup, il y a aussi une partie de l'accompagnement, c'est d'aller voir quelles émotions sont cachées derrière la maladie, mais jamais ça va être moi qui vais dire genre ça veut dire ça. C'est tout le temps avec la personne qu'on fait le lien, et c'est des questions hyper ouvertes. Jamais suggérer des trucs, enfin genre vraiment être, il y a beaucoup d'écoute, quoi. Moi je parle pas beaucoup dans une séance de gynéco, c'est la personne qui parle, mais à chaque fois je fais des ponts avec son corps. C'est-à-dire que si la personne me dit ça, je vais dire ah, c'est où dans ton corps, qu'est-ce que ça te fait quand je dis ça, bah moi quand tu me dis ça, ça me fait ça dans le corps, est-ce que t'as une idée de pourquoi? Et en fait je parle vraiment des ressentis corporels. Du coup en fait la personne est complètement actrice de son accompagnement, en fait. Et le but, c'est pas que la personne vienne me voir à chaque fois qu'elle a besoin, quoi. C'est un truc qui se fait sur un temps long, et qu'il y a des personnes qui viennent me dire ah, mais avant j'aurais genre été dépassée par une situation hyper forte, et là j'ai su la gérer, j'ai fait ça comme tu m'as dit. Et du coup il y a vraiment un peu une autonomisation, entre guillemets, dans le soin, quoi. Ouais, donner les outils. Pour moi, un bon accompagnement, il doit absolument rendre les oppressions systémiques. Enfin, que ce soit le racisme, le validisme, le sexisme. On ne peut pas genre, faire une thérapie sans qu'il y ait un point de vue global, qu'on ne connaisse pas le patriarcat. Enfin, moi, des fois, en séance, je dis, bah oui, en fait, moi aussi, ça me met en colère. Et voilà. Et du coup, je n'ai pas du tout la neutralité. Et en même temps, quand je vois des témoignages de personnes qui viennent me voir, ou même des psys, quoi, qui ne sont pas du tout formés aux questions systémiques, je me dis, en fait... Je peux pas faire du mal aux gens, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et je fais des ateliers aussi sur la gynéco émotionnelle. Et du coup, j'explique un peu le lien entre les émotions et la sphère gynéco. J'en ai organisé, je pense, une dizaine, avec plein de gens hyper variés. Enfin, j'ai fait des ateliers spécifiques sur la ménopause, par exemple. Des ateliers sur les émotions. J'ai fait pas mal d'ateliers différents. Où, pour le coup, c'est participatif, mais c'est quand même... Enfin, je parle et j'explique beaucoup de choses aussi, mais je laisse vraiment place aux expériences individuelles. Et en fait, il y a des personnes qui me disent « Ah bah non, moi, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Comment ça se passe pour toi ?» Et aussi, c'est à la fois les accompagnements individuels et les ateliers collectifs qui m'ont donné envie de faire un truc plus large et qu'il y ait plus de monde qui vienne et faire intervenir d'autres personnes qui sont spécialisées sur des sujets que je connais pas. Ça me tenait à cœur parce que toutes les thématiques que j'ai eues dans les accompagnements, que ce soit des problématiques de vaginisme ou en fait il y a plein de choses qui sont liées notamment à la pénétration. En fait, il y a des personnes qui se disent en fait peut-être il y a plein d'autres manières de faire l'amour, il y a plein d'autres et l'hétéronormativité, ça a conditionné plein de choses, et du coup j'avais vraiment envie de donner d'autres manières de penser le corps, quoi, et la sexualité. Je suis en train de construire un site internet qui s'appelle du coup la Bazana. Donc mon nom sur Instagram et sur les réseaux, c'est la Bazana, donc LA.BAZA2NA. Du coup, je mets les infos en général sur Insta. Et là, il faut que je finisse enfin ce site internet avec toutes les infos aussi dessus.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel.
Dans quelques minutes, pour votre plus grand plaisir, je vais jouer sur la scène du fond à gauche, là-bas.
Venez, prenez, il y a des places sur les bancs.
Mettez-vous dans l'ambiance.
Moustache, pipe.
Je vais jouer un spectacle qui s'appelle Préliminaire Pénétration Orgasme, un spectacle qui parle de cul, des sexualités, de ma vie sexuelle. Et il y a plein de blagues. On rigole.
Ça va, Claire ?
Ouais, ça va.
Donc là, vous êtes venus à deux au centre. Toi, Rita, tu es à la technique ?
Oui, on peut dire ça.
Allez, la musique, Rita ! Allez, on est dans la salle de bal, on peut tout donner.
Dans les yeux,
ouais,
et la main, dans la main.
C'est vraiment l'histoire de ma vie, donc j'ai même pas tant écrit en fait, j'ai juste un jour raconté des bouts de ma vie. J'avais envie de parler de moi, de mon histoire intime, et de la relier à une histoire plus grande, une histoire plus collective, quoi. Avec des rappels théoriques de dire que ben c'est pas nous en tant qu'individus, c'est quelque chose de plus collectif et systémique, quoi, en vrai. Ça me plaît de ouf de se dire que n'importe qui peut venir sur scène et il a forcément quelque chose à nous dire et à nous transmettre. Et qu'on n'a pas besoin de s'appeler de Beauvoir pour dire des trucs, quoi. Mais c'est... Moi, je trouve que ce spectacle, c'est un peu l'allégorie de la sexualité. Enfin, que ce que j'aimerais, moi, de la sexualité. Où on rigole, c'est léger, en même temps, des fois, c'est quand même intense. Et ça prend du temps, quoi. Et oui, pour discuter, se mettre d'accord, tout ça, bah, c'est long.
Quand on m'invite à aller me faire enculer, souvent quand je suis en voiture, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je dis mais merci, c'est trop sympa de souhaiter du bonheur à des inconnus comme ça. Juste... Petite information pour tout le monde, ça ne se voit pas sur notre gueule qu'on s'est fait enculer la veille. Personne n'en saura rien, vraiment.
Et là, je suis contente et en même temps, un peu, je joue souvent dans des lieux féministes queer. Et c'est cool parce qu'on parle le même langage et qu'on a lu les mêmes bouquins. Mais du coup, on a tellement le même langage et les mêmes bouquins que j'ai l'impression de pas faire quelque chose de trop révolutionnaire, quoi. Bon, c'est pas obligé de faire des trucs révolutionnaires tout le temps, mais j'aimerais bien faire un peu de la pédagogie.
Mais en vrai, elle rêve de jouer dans les EHPAD. Mais c'est vrai, dans les EHPAD, dans les lycées.
Non, par contre, les lycées, les collèges, ça, les MJC, FJT, tous ces mots comme ça. Vraiment ça, en fait j'ai envie d'aller auprès des jeunes, ouais, j'ai l'impression que, et mais c'est hyper dur, en fait c'est un rêve parce que j'ai l'impression que ça va pas être possible, c'est pour ça que j'en rêve, parce que en fait dès que j'ai des contacts dans les lycées et tout, mais ça ne marche pas, quoi, les gens ils sont en résistance, ils ont peur que ça puisse, et je crois qu'ils savent pas non plus gérer, parce qu'il faudrait pas faire juste le spectacle, il faudrait faire des ateliers avant, des ateliers après, des discussions, et c'est, on voit bien, quoi, il n'y a pas d'éducation vie affective et sexuelle dans les collèges lycées, quoi, donc là il faudrait tout remettre en place et ça viendrait bousculer des trucs.
En tout cas, moi, la première fois que j'ai vu ton spectacle, c'est sûr que je fais des interventions avec le planning familial dans les écoles. Et en fait, souvent, on manque de support, tu vois. Et là, tu te dis, mais en fait, pas au collège, tu vois, mais en terminale, mais ça a tellement du sens de faire venir un spectacle comme ça, de le faire voir à toute l'école. Et après, de lancer des débats et d'amener effectivement des discussions. Parce que, en fait, c'est surtout ça, c'est un prétexte de discussion, ce spectacle, vraiment, quoi. Même après le spectacle, les gens, quand ils tchatchent de ça et tout, c'est quand même les moments les plus... Enfin, c'est hyper intéressant ce qui se dit, quoi.
C'est pas révolutionnaire de jouer dans un milieu plutôt de convaincu. Et du coup, en quoi il est révolutionnaire et pédagogique, ton spectacle ? Enfin, sur quoi il met le doigt ?
Je pense que vraiment, moi, j'ai découvert une sexualité très, très tard qui était magnifique. Et en fait, c'est ça que je raconte dans le spectacle, c'est que je me suis vraiment fait chier beaucoup, longtemps, trop souvent, quoi. Et que à partir du moment où j'ai découvert que ça pouvait être autre chose, ben pour moi c'était la révolution. Et quand je le transmets à d'autres et je raconte ça, je vois bien que aussi pour des gens c'est la révolution de se dire il y a quelque chose. Et on le sait tous qu'il y a quelque chose de magnifique et de créatif et qui peut être fou et tout, mais je sais pas, il y a quelque chose qui nous en interdit. Ou... Aussi, une nana seule sur scène qui parle de sexualité. Ma première phrase, c'est « J'adore baiser !» Et c'est quand même pas anodin, quoi.
Ouah, vous êtes plein ! Vous êtes toutes venues pour m'écouter parler de ma passion ? Vous savez ce que c'est ? Oui ! Le sexe !
C'est...
J'adore,
on n'a pas l'habitude de voir des filles dire qu'elles adorent le cul.
Ouais, vraiment, j'adore ça, c'est ma passion.
Et
le
d'en
début,
parler
ma
comme
vie
ça.
Sexuelle, je sens que cette activité va me plaire. J'adore aussi parler de sexe. C'est pour ça que je suis là. Je vais vous raconter
après,
toute ma
moi,
vie sexuelle.
Je trouve que c'est quand même plus une bon, forme de stand-up. Ça prend une analyse générale, mais pour c'est partir ça. De son point de vue et de son histoire, du coup, c'est. Je sais pas, pour moi, c'est pas une théorie. C'est à partir de récits de vie. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de gens qui peuvent se sentir quand même. concernés, tu vois, parce que ça part justement de récits, et que quand même, la morale de l'histoire, c'est qu'on est quand même empris de patriarcat et que c'est chiant. Voilà.
Affaire à suivre.
Ouais.
Merci.
Merci.
On est bien sur l'onde de fronde.
Du coup, merci beaucoup d'être venu à la projection. Merci Mylène d'avoir répondu présent à l'invitation.
Merci à toi et à toutes les personnes qui organisent cet événement. C'est cool.
Je
ne
sais pas si vous avez des questions, des commentaires.
Bonjour. Moi, je m'appelle Mylène Guerre-Schmidt. Et je fais du cinéma qui mêle le documentaire et l'animation. Et j'enseigne aussi dans le cadre de la classe Alpha à l'INA, à l'Institut National d'Audiovisuel, la réalisation et l'histoire des médias et l'histoire du cinéma.
Si l'accouchement transforme nos corps, nos désirs, est-ce que nos désirs transforment nos accouchements ?
C'est un court-métrage qui s'appelle Histoire d'entrejambes, qui parle qui tente en tout cas de collecter d'autres récits par rapport à l'accouchement, qui parle de douleur, de plaisir, d'histoire familiale, d'histoire culturelle, religieuse, et ouais, du lien avec nos corps, quoi, de manière générale. L'aspect documentaire est surtout amené par des témoignages sonores de personnes ayant vécu soit en tant qu'accompagnante, soit en tant que personne l'accouchement. Et je documente aussi, mais d'une autre manière, en fait, avec de la peinture animée et une autre technique qui s'appelle la pixilation, où en fait j'anime des corps, des objets, un récit qui tisse en fait tous ces témoignages et qui le reflet aussi de mon parcours, de mes questionnements, et qui ouvre aussi à des questionnements plus collectifs, à des voix multiples.
Comment ça s'est passé pour toi, justement, ces questions qui sont un peu sans réponse, que tu as abordées avec voilà, comment on porte la douleur en nous, la douleur de nos mères, ou la douleur du silence ?
Le point de départ, en fait, c'est une expérience intime. J'ai accouché en 2009, à la maison, en Espagne. Et le récit familial, ça a été toujours que ça a été toujours super facile, en fait, les accouchements du côté maternel. Donc très rapide, très machin. Donc moi je venais aussi avec cette espèce d'imaginaire vers l'accouchement en me disant ouais, les doigts dans le nez. Et moi j'ai vécu en milieu rural. Et c'est con, mais en fait moi dans mon enfance j'ai vu des animaux mettre bas, etc. Et je sais pas, il y avait un truc de sensation d'être dans un élément connu, que l'enfantement je l'avais vécu, quoi. Et en fait, après, je suis arrivée dans l'expérience et ça a été vraiment bouleversant, quoi. De me dire que j'allais vraiment mourir, en fait. Vraiment la sensation de mort. Et il y avait une sage-femme qui était là et qui me disait « Non, mais qu'est-ce que tu crois, en fait ? T'es juste en train d'accoucher, quoi. » Bah ouais, mais là, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir, donc aidez-moi. Et donc, voilà. Et donc, j'en ai voulu un peu aux copines... À l'époque, j'étais dans un milieu assez écolo et tout ça. Et il y avait pas mal de personnes qui m'avaient dit « Ouais », qui avaient fait plein de métaphores autour de l'accouchement. Genre, c'est comme une ascension à montagne, comme des trucs en fait très abstraits et qui étaient hyper éloignés de l'expérience en elle-même, quoi. Et du coup, il y a eu j'en voulais un peu aux personnes autour de moi de pas m'avoir parlé en fait de ce que sont les sensations de l'accouchement. Et en même temps, je me rendais bien compte que c'était quelque chose qui est très difficile à transmettre sans orienter en fait ce que la personne va vivre, parce qu'en fait il y a autant d'expériences que de personnes qui vivent ce moment. Et du coup ça a été un peu ça le point de départ, de me dire en fait comment on transmet une sensation à des personnes qui l'ont pas encore vécu pour pouvoir se préparer, en fait. Et donc ça a été le point de départ. Et après, de là, bah, À cette époque-là, j'étais nomade, donc entre la France, l'Espagne et la Belgique. Au cours des voyages, en fait, j'ai rencontré des personnes, j'ai enregistré des sons. Et petit à petit, en fait, il y a un premier ours sonore qui s'est tissé, donc plus sous forme de documentaire sonore, finalement. Et à la fois, il y avait vraiment le truc de me dire, je veux montrer quelques... Enfin, il y a des images à poser là-dessus, mais pas les images que j'avais vécues avant l'accouchement, qui étaient des images d'accouchement en elles-mêmes, enfin, de personnes qui accouchaient. Et du coup, comment montrer, en fait, des sensations à l'intérieur et pas seulement depuis, en fait, un point de vue extérieur et souvent médical, en fait, de l'accouchement. Et donc, ça a été toute une recherche, ensuite, de comprendre comment on pouvait montrer une sensation. Sortir vraiment de la représentation même de l'utérus en tant que tel, d'essayer de... En fait, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, tout le film est construit sous la forme d'une ritournelle, en fait, évolutive, qui est un peu ce que moi, j'ai ressenti, en tout cas pendant l'accouchement, de trucs d'expansion, comme ça, et de rétraction. Et donc, du coup, j'ai essayé, en fait, de trouver, comme ça, des images clés au fur et à mesure des entretiens de chacune des personnes. En construisant, en fait, une évolution comme ça avec cette sensation, enfin, d'essayer de construire vraiment quelque chose où tu rentres dans une sensation.
Nos accouchements transforment nos vies. Est-ce que nos vies transforment nos accouchements?
Il y a eu aussi tout un travail sonore important, genre de j'ai enregistré des sons intra-utérins avant d'être enceinte et après, parce qu'en fait, du coup, ça a mis 10 ans de faire ce film-là. Et du coup, pour la naissance de ma seconde fille, en fait, du coup, j'ai pu enregistrer de manière intra-utérine, en fait, des sons fœtaux. Enfin, je me suis posé plein de questions aussi de qu'est-ce que tu entends, ressens quand t'es dans un environnement, en fait, à travers des tissus musculaires, à travers de l'eau.
Enfin, moi, je me ressens avec un nouveau regard sur l'accouchement sans jamais l'avoir expérimenté. Donc, merci d'avoir pensé aux personnes qui peuvent potentiellement accoucher, qui n'ont pas encore vécu cette expérience. Et en fait, je me posais la question, il y a une grande partie sur quelque chose que j'ai découvert, qu'on pouvait avoir du plaisir pendant l'accouchement. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure, en fait, naturellement, spontanément, avec les échanges?
Ben alors, en fait, après cette première expérience d'accouchement, je découvre un texte d'une anthropologue espagnole qui s'appelle Casilda Rodríguez Bustos, qui s'appelle « Nous accoucherons dans le plaisir ». Et donc, je lis ce texte et je me dis « Ok, ben moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Donc, s'il y a des personnes qui vivent ça dans le plaisir, je veux les rencontrer, quoi. » Et donc, tout au long de ces années-là, j'ai enregistré. Et les premières questions que je posais aux personnes que je rencontrais qui avaient accouché, c'était « Comment vous avez vécu, en fait, l'accouchement ?» Est-ce que vous avez vécu du plaisir, etc. Et au fur et à mesure de mes rencontres, en fait, je suis tombée sur des personnes qui m'ont raconté ça. Mais il se trouve que ce qui est cocasse, c'est que les personnes qui parlent d'accouchement orgasmique, c'est mes sages-femmes. Sauf qu'elles ne m'en avaient jamais parlé pendant la préparation à l'accouchement, en fait. Et donc, et là, je me suis dit, mais il y a un bug, quoi. C'est pourquoi, en fait, cette parole, elle n'émerge pas. Pourquoi cette parole, en fait, elle n'est pas dite. Et du coup, je me suis dit, il y avait quand même un espèce de tabou autour de maternité et plaisir. Comme si, en fait, cette espèce de figure symbolique de la mère et de la putain ne pouvait pas se rejoindre à un endroit, quoi. Et que finalement, en fait, la maternité était encore dans cette espèce de symbolique, de pureté, de sacrifice. Le processus, en fait, physiologique d'un accouchement, c'est le même qu'un processus où tu fais l'amour avec quelqu'un. On sécrète les mêmes hormones, on a les mêmes contractions utérines, sauf que c'est 10 fois... Le processus est beaucoup plus amplifié. Sauf qu'en fait, personne n'imaginerait avoir une relation avec quelqu'un d'autre, avec des médecins, des gens qui vous disent « Ah non, mais ouvre les jambes, vas-y, mets-toi dans cette position, vas-y, souffle, machin. » En fait, personne ne peut avoir un orgasme dans cette condition-là. Et c'est et la plupart en fait des personnes qui vivent leurs accouchements, elles sont dans ce processus-là, qui est d'avoir un coaching permanent. Et en fait, il y a un autre truc, c'est que au moment de l'accouchement, il faut déconnecter de tout ce qui est informatif, quoi. Donc poser des questions à ce moment-là, interroger la personne, ça ne fait que la déconnecter. Finalement, le contexte hospitalier met tout en place pour que finalement il y ait de la douleur qui soit là.
Moi, j'ai pas eu l'orgasme en accouchant, mais alors j'ai fait l'expérience. Moi, pendant l'accouchement de la petite dernière, j'avais lu Anne Mae Gaskin, qui est une sage-femme américaine, formidable. Et elle disait qu'on pouvait éprouver beaucoup de plaisir, notamment en embrassant son partenaire. Et à un moment, j'ai demandé pour qu'on soit tout seul, et la sage-femme est sortie. Et c'était un bon moment, vraiment très très chouette.
Moi, quand j'ai commencé ce film-là, je me doutais pas du tout du fait que j'allais découvrir effectivement toute une histoire que je connaissais pas. Par exemple, l'histoire de l'accouchement sans douleur qui prend naissance au moment du régime soviétique, qui s'inscrit dans une histoire en fait anti-religieuse, qui dit bah, voilà en fait l'asservissement des femmes pendant l'accouchement avec le tu accoucheras dans la douleur est complètement un fait religieux et donc on va déconstruire ça. Et il propose une technique. La technique du petit chien, où en fait on propose aux femmes de respirer comme ça très, très rapidement comme ça, et de se suroxygéner. Et effectivement, la suroxygénation fait qu'en fait on rentre dans un second état de conscience, quoi, et effectivement on provoque beaucoup moins de douleur. Du coup, on peut dire que c'est quand même une technique qui est un moment de bascule dans l'accompagnement des personnes en milieu hospitalier, dans le sens où tout d'un coup, il y a des cours de préparation aux accouchements qui est proposé. Donc aussi, pour plein de personnes, c'est l'occasion de découvrir juste comment est constitué le corps. Et du coup aussi, ce que ça amène, c'est la possibilité de penser que l'accouchement n'est pas forcément douloureux, quoi. Mais en fait, c'est souvent porté par des hommes. Enfin, c'est des obstétriciens qui pour ça. Et du coup, il y a un truc de coaching, quoi. Et justement, au contraire, un accouchement, je pense que c'est un moment où il faut s'écouter, quoi.
Plus t'intellectualises... Moi, j'ai des mauvais souvenirs de... J'ai travaillé à Pithiviers avec Michel Autant. C'était tous les intellos qui venaient, là... Ils nous accouchaient vachement, c'était une galère. C'est-à-dire que tout devient un objet de contrôle. Tout est réutilisé, même des profs de yoga, la respiration. Elle respirait bien, mais il ne se passait rien, rien ne se bouge. Toute technique peut être utilisée comme contrôle. Et c'est toute l'ambivalence de la préparation.
Moi, je crois fort, en fait, dans le fait que nos corps, ils sont modelés par nos imaginaires. Enfin, en fait, c'est un des trucs que le texte, en fait, de Casilda Regañez Bustos, qui parle, en fait, du fait que nos corps, en fait, ont été modelés par le patriarcat, et que si nos accouchements sont douloureux, parce qu'on a vécu des siècles de patriarcat où le plaisir féminin était complètement devenu un tabou, quoi. Et du coup, je crois fort dans le fait que créer des nouveaux récits fait que potentiellement aussi ça peut libérer des choses dans nos corps. L'accouchement, c'est un lieu de pouvoir au niveau sociétal, et que c'est là où les histoires coloniales et les histoires de domination sur les corps des reproductifs se fait, c'est que en fait le moment où il y a l'esclavage qui se met en place, c'est aussi le moment de la chasse aux sorcières, c'est aussi le moment de la médicalisation de la gynécologie, et donc c'est un moment de bascule complet en fait dans ce que c'est que l'autonomie par rapport à nos corps.
Moi, j'ai des origines guadeloupéennes, et c'est vrai que l'histoire de l'accouchement et de l'avortement, enfin toutes ces histoires de liberté en fait à disposer de son corps est différente selon les endroits d'où on vient. Par exemple, ici on a interdit les femmes d'avorter, et inversement dans les régions d'outre-mer on a stérilisé des personnes sans leur consentement, quoi. Et le film, je pense que c'est un outil surtout d'ouverture à plein de questionnements possibles.
Pourquoi ai-je accouché dans la douleur? Entre mémoire et oubli, je pense à ma grand-mère paternelle, que je connais si peu. Je pense à la Guadeloupe. Nos arbres généalogiques portent de bien étranges fruits. Nos corps suspendus se balancent dans la brise, étranges fruits. Mulâtresse solitude, sorcière pendue, savoir voler, étrange fruit.
Ce film-là, je l'ai montré à Bure il y a maintenant plus d'un an, je pense. Et j'avais été interpellée par une femme trans qui m'avait dit merci, ton film est magnifique, il aborde des histoires qui ont complètement été silenciées, et il est nécessaire, etc. Mais. Moi, personne qui n'est pas d'utérus, en fait, où est-ce que je peux me situer dans ce film-là? Et c'est vrai que c'est des questions qui, pour moi, maintenant, sont beaucoup plus présentes, mais qui, au moment où j'ai fait ce film, qui maintenant il commence à dater, j'ai commencé à le faire en 2009, et je venais d'une histoire cis hétéro, j'avais peu de personnes trans dans mon entourage. Je connaissais pas de personnes trans ayant enfanté, quoi. Et pourtant, là, aujourd'hui, je trouve que c'est des histoires et des récits qui sont plus que nécessaires. Comme moi, par rapport à ma propre histoire aussi, c'est que la majeure partie des personnes en fait, que j'interroge dans ce film sont des personnes blanches. Et que quand c'est une question qui a émergé de manière très prégnante pour moi, au cours de la fabrication du film, j'avais déjà les témoignages et du coup c'était trop avancé pour aller chercher d'autres types de paroles. Ou par exemple, dedans, il y a une personne qui est lesbienne dans le film, mais si on le sait pas, en fait ça apparaît pas. Et du coup, il y avait une copine lesbienne qui disait « Ouais, mais quand même, ces récits-là, ils sont pas dedans. » Je dis « Bah si, en fait, ils sont dedans, mais ils sont pas... » Enfin, je les ai pas effectivement soulignés, alors que dans l'interview, il y a certains moments où elle le dit, et je pense que du coup, c'est sûr, je ferai un film différent. Enfin, en fait, ouais, c'est ça. Mais je t'en prie, merci à toi.
Stupid and contagious. Here we are. And I forget just what it takes. And yet I guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh well, whatever. Never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence, transfusing street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs, blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned paint, sniffing stone out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children found mouth.